La semaine de prière pour l'unité des chrétiens prend une teinte particulière à Jérusalem, la ville sanctuaire, creuset des peuples, des monothéismes et cœur de la chrétienté. Nombreuses sont les églises chrétiennes présentes dans la ville sainte, et nulle part ailleurs ne se voit une représentation aussi parfaite de l'œcuménisme, avec la richesse et la diversité des rites liturgiques qu'il suppose. Les lieux saints sont répartis entre les confessions les plus anciennement présentes, selon le fameux statu quo édicté en 1852 par le sultan ottoman Ayoub, lassé des sempiternelles querelles religieuses entre moines des différentes églises. Ces règles définissent le rôle et les prérogatives de chaque communauté présente au Saint-Sépulcre ou dans la basilique de la Nativité à Bethléem et sont encore aujourd'hui scrupuleusement observées. Malgré cela, la cohabitation n'est pas exempte de tensions. Ainsi, il n'est pas rare d'assister à des heurts violents entre moines orthodoxes, arméniens ou autres, nécessitant parfois l'intervention des forces de l'ordre israéliennes. Le père Stéphane, prêtre français de la custodie de Terre Sainte et supérieur de la communauté franciscaine à Bethléem, nous explique les raisons de ces surprenantes empoignades.
Vu d'Occident, ça a l'air quelque chose d'un petit peu difficile. On voit au Saint-Sépulcre des fois des célébrations où vous avez des franciscains qui prient d'un côté avec l'orgue, les arméniens qui de notre côté ont des célébrations, et on a une idée un petit peu cacophonique parfois, et ça peut paraître un contre-témoignage au niveau de la vie en commun. Les religieux d'abord qui vivent sur les lieux saints sont poussés par la même foi, mais parfois déjà n'ont pas la même langue. Il faut penser qu'au Saint-Sépulcre, par exemple, donc il y a 5 communautés qui vivent dans la basilique, tous ne sont pas forcément de même culture, tous n'ont pas forcément la même formation humaine. Et donc, dans un lieu étroit, en plus au Moyen-Orient où tout prend des proportions tout de suite plus dramatiques, parfois il peut se produire des heurts, suite à des choses qui souvent sont insignifiantes. Et malheureusement, ça faut bien reconnaître, ça fait un peu partie du protocole que ça se termine plus ou moins dans une ambiance style bataille de Polochon, n'est-ce pas? Alors évidemment, le lieu saint n'est pas du tout fait pour ce style d'écart. Les églises ont une part de responsabilité parce qu'elles devraient, à mon avis, être plus vigilantes. Mais ce qui paraît scandaliser les Occidentaux qui voient de telles images, vu d'ici, est assez relatif.
Car les lieux saints, mosaïques de peuples et de confessions, ne sont pas à l'abri des contradictions du monde qu'ils représentent. Et c'est dans l'espace réduit de cette basilique du Saint-Sépulcre, construite sur les lieux de la mort et de la résurrection du Christ, que chaque culture se voit confrontée à l'altérité.
L'Église est née à Jérusalem le jour de Pentecôte, et ensuite, après la persécution de Saint-Étienne, ces communautés vont s'éclater et vont se répandre dans les quatre coins de la terre, en Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Et les églises ensuite vont naître dans les différents continents. Et l'évangile va se développer dans les cultures européennes, africaines, etc. Et ensuite, comme un poumon qui respire, l'évangile quitte la Terre Sainte et va dans le monde entier. Et ensuite, du monde entier revient dans la Terre Sainte des communautés. Alors vous avez les pèlerins qui reviennent du monde entier, mais vous avez aussi des communautés qui reviennent et qui s'installent. Alors au Saint-Sépulcre, moi j'aime beaucoup dire que d'Afrique sont revenus les Coptes et les Éthiopiens. D'Asie reviennent les Arméniens et les Syriaques. D'Europe, l'Europe est double, l'Europe orientale, l'Europe occidentale, l'Europe latine, l'Europe grecque. Et bien au Saint-Sépulcre, vous avez des Latins et des Byzantins. Donc en fait, au Saint-Sépulcre, eh bien, on a une espèce d'image de toute l'Église universelle des différents continents qui se retrouve présente dans un lieu assez réduit. Alors on n'est pas toujours préparé à rencontrer l'autre. Et lorsque l'on voit l'autre, on a tendance à avoir une image de division. Et quand on va au Saint-Sépulcre, j'ai envie de dire qu'on a un petit peu la même vision que celle du bon Dieu qui regarde le monde et voit un monde uni et différent. Alors ça peut paraître un petit peu dérangeant, mais c'est magnifique de voir que l'Église du monde entier, au quotidien, prie autour de ces lieux aussi importants que le tombeau du Christ et la grotte de la Nativité.
Pour le père Stéphane, le but de cette semaine de prière qui a commencé le 21 janvier à Jérusalem consiste à affiner un dialogue et une fraternité déjà vécues quotidiennement.
Les choses ne changent pas après cette semaine de prière, car en fait, au niveau des églises traditionnelles qui sont présentes dans les sanctuaires, les églises orientales et l'église catholique, on a l'habitude de se côtoyer. Donc en fait, pendant la semaine de prière, eh bien, on apprend à connaître davantage les luthériens, les anglicans, qui sont des gens que l'on connaît mais que l'on a moins l'habitude de côtoyer au quotidien. Donc en fait, on élargit d'une part nos horizons et puis en fait, on apprend à prendre le temps de prier ensemble. Chacun prie un peu de son côté pendant l'année. Pendant la semaine de l'unité, eh bien, on a des moments où on est assis les uns à côté des autres pendant la même célébration. Alors la semaine de prière pour l'unité des chrétiens est quelque chose qui est très très bien, mais j'ai envie de parler de cet œcuménisme au quotidien qui se vit dans les lieux saints. Lorsque le frère se réveille le matin et qu'il va changer l'huile des lampes à huile ou veiller au grain dans le tombeau de Jésus ou à la grotte de la Nativité, eh bien, il se retrouve avec les Arméniens qui font la même chose, les Grecs ou les Coptes ou d'autres. Donc en fait, il y a une vie au quotidien qui se vit dans les sanctuaires. Alors il peut y avoir des tensions comme dans toutes les familles, mais au quotidien, il y a des relations qui sont somme toute courtoises et qui sont, à mon avis, importantes. Ce qui unit est vraiment plus grand que ce qui divise. Et c'est lorsque on dépasse le moment où on est irrité par la mélodie de l'autre ou par la façon de prier de l'autre ou par la mentalité de l'autre, bien après, on finit par dépasser ça et ne voir que ce qui est commun. Ce qui est dommage, c'est que les pèlerins, venant une demi-heure au maximum, restent souvent sur le côté séparant et sur le côté frustrant de la différence. Lorsque l'on vit ici, on apprend à dépasser ce côté frustrant et à apprécier l'autre. On ne peut pas apprécier l'autre tant que l'autre ne vous a pas irrité. Il faut expérimenter sa différence qui peut paraître surprenante et blessante. Et c'est une fois qu'on a dépassé tout ça que l'on découvre la fraternité chez l'autre.
Le point culminant de cette semaine de partage, émaillé de nombreux événements, aura lieu au Cénacle, lieu de l'institution de l'Eucharistie et de la descente du Saint-Esprit sur Marie et les apôtres, où représentants des différentes églises prieront ensemble dans la chambre haute, la même où Jésus avait élevé sa prière le soir du Jeudi Saint, afin que tout soit un. Car il est bon de rappeler que l'unité reste un don de Dieu et que selon les mots mêmes de Benoît XVI, sa victoire ne passe ni par le pouvoir ni par la puissance, mais qu'elle est celle de l'amour, de l'entraide et du service mutuel.